Important aussi d'entendre les mots d'Hélène et de se dire que on doit pouvoir être touchés les uns par les autres. J'aime parler du toucher hein, quand on voit pas le tactile. Ma petite fille Yaël qui a 6 ans, je faisais une petite intervention dans la classe des CP dans laquelle elle est, dans une école privée protestante, hors contrat, le Petit Prince, dans le Val d'Oise. Et au moment où j'entre dans la classe, et elle dit à ses copines, « Ma mamie, elle voit avec ses yeux. Il faut la laisser toucher. » Mais je crois qu'on a tellement besoin d'être touchés tous. Touchés par l'amour de Dieu qui se manifeste, par cette présence qui parfois se ressent physiquement, hein, touché dans nos émotions, mais qui va nous pénétrer en profondeur. En tout cas, c'est ce qui m'a fait répondre oui à son appel, alors que j'étais une adolescente extrêmement révoltée et j'avais le sentiment d'avoir été laissée pour compte et que oui, je croyais en Dieu, oui, tout ce que mes parents m'avaient transmis, c'était OK. Mais moi, je comptais pour du beurre. 15 ans... malvoyante, j'avais l'impression qu'il fallait que je sacrifie mes études, quel homme voudrait de moi. Enfin, vous savez, à 15 ans, on n'imagine pas ce qui se passe dans la tête de nos ados. Je ne sais pas s'il y a des ados dans la salle, mais je vous assure que parfois, ils sont dans une telle souffrance qu'on va les rabrouer, les bousculer. Mais on n'imagine pas les questions qu'ils se posent. En tout cas, moi, j'étais très en colère après Dieu. Et j'aimais rentrer à la maison et me jeter sur mon lit après des journées difficiles, et après des parents qui ne me comprenaient pas. Et j'allais en découdre avec Dieu. Et je lui disais, vraiment, c'est pas juste. Tu m'as oubliée, je suis laissée pour compte. Ou qu'est-ce qui fait que tu m'aimes pas? Mais ce dialogue de l'ado sur le mode de la colère, avec Dieu, alors moi je dis ça souvent au groupe d'ados, en principe les pasteurs n'apprécient pas trop à côté en disant « Mais comment tu leur dis de parler à Dieu comme ça ?» Je dis « Mais moi ça m'a sauvé la vie quoi !» Il y en avait un, alors d'abord je n'avais pas vraiment fait une rencontre avec lui, c'est étonnant, hein, mais je savais qu'il existait. Donc je me disais que si je ne déversais pas sur lui et avec lui, toute cette rage et cette colère et ces incompréhensions, mais alors je ne pouvais pas le faire avec mon père, bon voilà, c'était compliqué, avec ma mère, s'en aurait rajouté avec tout le souci qu'elle se faisait pour moi, donc avec qui? Alors je le faisais avec Dieu, et bien je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que personne ne le savait autour, mais je crois que dans ma colère, j'exprimais vraiment ma volonté de le connaître autrement, puis je vais revenir, hein, là où j'en étais. Et à 16 ans, dans un camp chrétien, dans lequel mes parents m'ont mis de force, on s'est retrouvés là, à Mulhouse, Münster, dans un camp chrétien, avec des ados, beaucoup étaient fils de pasteurs, d'anciens, de diacres, de machins, des trucs. On était tous aussi révoltés les uns que les autres. Mais c'est là que Dieu est venu me toucher. Moi, la petite ado rebelle, on faisait courir les moniteurs autour des tentes parce qu'on fumait en cachette. Mes petits-enfants me disent « Mamie, t'as fumé ?»« Ah oui, très tôt, hein. » Alors, bien en cachette, mangeais beaucoup de bonbons à la menthe, hein. Et vous voyez, c'est vieux pourtant, hein. J'ai 69 ans bientôt. Rebelle, mais ayant cette volonté quand même de découvrir le Dieu dont on m'avait parlé, le Dieu de mes parents, le Dieu de mon Église. Parce qu'en même temps, c'était et mes parents et mon Église. Vous savez, toute cette ambivalence à l'adolescence. Et là, dans une réunion, on est arrivés, rebelles, faisant du bruit, où les pasteurs, les je sais pas, animateurs, éducateurs, voilà, tout ce petit monde chrétien qui prenait soin de nous avec tant d'amour, on avait envie vraiment de fiche le bazar ce soir-là, quoi. Et puis on s'est assis, et je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Et en tout cas, le prédicateur nous a dit qu'on était un peu comme, alors moi ça me touchait parce qu'on avait tellement de stratégies pour fumer en douce, et il sort une cigarette de sa poche et il l'allume et il, comment on dit, il taffe là, vraiment. Donc pff, silence dans la salle. Tu vois Paul, t'arrives au culte. Ah, et là, silence. Et je dois dire que la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'à un moment donné, donc il n'a pas continué à fumer, hein. Il avait un mégot de cigarette dans l'autre main et il l'a jeté par terre. Et alors, je ne sais même pas s'il l'a dit vraiment, mais a priori, oui, quand même. Mais a résonné dans mon cœur, dans tous les cas, tôt ou tard, tu devras fléchir les genoux devant moi et tu découvriras à quel point je t'aime. Et tu auras brûlé ta vie comme ce mégot de cigarette. Vous voyez, c'est bizarre, hein, le lien entre le mégot de cigarette et la conversion. Et là, je sens l'attouchement divin. C'était comme si on m'avait jeté ces gros doudous plaids qu'on fait maintenant. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait plein de choses très, très douces qu'on jette sur les épaules des enfants. Peut-être c'est le doudou plaid qui les enveloppe les plus nos bras. Et en tout cas, ça avait cette chaleur, ça avait cette douceur. J'avais pas des voix comme Jeanne d'Arc, j'avais pas d'hallucination. J'étais dans la présence de Dieu et le toucher divin m'envahissait, je me sentais aimée par Dieu. Aimée au point où j'ai commencé à pleurer, puis il m'a rien dit, hein, en fait. J'ai rien entendu. C'est moi qui ai commencé à verbaliser ce qui résonnait dans mon cœur et qui avait été emmagasiné au fur et à mesure de mon éducation, de ce que mes parents m'avaient transmis, de ce que j'avais entendu dans l'église, de ce que Dieu avait dû murmurer à mon cœur. Et à ce moment-là, ce toucher divin fait qu'en quelques secondes, je revoyais mes 16 petites années de vie, je découvrais à quel point Dieu m'aimait, bigleuse ou pas, parce qu'on m'appelait la bigleuse dans le camp. Et du coup, j'utilisais les justes mots dans ma tête, dans mon cœur, bigleuse ou pas, mais je t'aime. Ah oui, tu m'aimes, j'en suis sûre. Bigleuse ou pas, il y a un avenir, il y a de l'espérance pour toi. Puis ta rébellion, mais en fait, j'ai entendu quand tu pleurais, quand tu criais, quand tu ne savais pas, quand tu étais en colère après tes parents. Mais je suis là et je t'aime. C'est ça le toucher divin. Et je n'avais pas prévu de vous le dire, mais c'est Hélène qui m'a conduite à vous témoigner de cette rencontre que j'ai faite avec Jésus au moment de cette adolescence tellement tumultueuse, en crise, avec toutes ces questions et comme un avenir bouché pour moi. C'est ce toucher divin. Et je crois qu'au-delà de ce temps, de cette rencontre avec Dieu, dans ma vie, j'ai été touchée et impactée par des gens complètement ordinaires, comme je le suis, comme Christian l'est, comme vous l'êtes, qui simplement se sont approchés de moi, se sont approchés de nous, dans les moments difficiles, dans les moments de révolte, de colère, qu'on s'autorisait à exprimer, dans les moments peut-être où on n'arrivait à rien dire, et juste où les larmes coulaient. Quand j'ai eu mon décollement de rétine en 2004, hein, puisque j'ai été malvoyante profonde de naissance jusqu'à 2004, et à 2004, en plein apogée du ministère, je plaisante, mais en tout cas en plein service magnifique, décollement de rétine, rétinoctomie, et puis je perds la vue, et puis c'est, voilà, tout semble basculer. Et puis j'avais envie de me cacher. Alors d'abord, les chrétiens m'agaçaient. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec vos enfants, votre mari, avec votre santé. Les chrétiens, c'est très encombrant dans ces moments-là. Ils veulent toujours prier pour vous. Ils veulent que vous soyez guéris, que vous réconciliez avec votre mari, que vous ayez la bonne parole pour que votre enfant veuille venir au culte, pour qu'il quitte la personne qu'il doit quitter quand il est ado ou jeune adulte. Ce n'est pas le bon choix. Et puis en plus, ils sont prêts à prier, à faire des réunions de jeûne. Hein. Je crois qu'il y a un ancien qui avait dit à Christian, on va mettre une semaine de jeûne pour Françoise. Pour Françoise, oh là là. Donc moi, là, je me couchais dans mon lit et je me disais, Seigneur, juste toi. Et il fallait que Christian compose. Quand la Bible parle d'une aide précieuse à nos côtés, c'est ce qu'Ève est pour Adam. Mais ça vaut dans les deux sens, hein. C'est la réciprocité, hein, l'oubliez pas, hein. Parce qu'on veut bien être aidé pour porter les grosses valises, les femmes. Il y a d'autres moments où on a besoin d'être aidé autrement. Puis les hommes, très machos, Non, il n'y en a pas de mettre ceci. Qui veulent bien porter les valises, mais quand ils sont dans la souffrance et quand c'est difficile, plus compliqué parfois pour les épouses ou pour les personnes qui sont autour. Hein, ce que j'élargis, je crois. C'est plus difficile de se faire aider. Et moi, je dois bénir le Seigneur. Dans ce moment-là, je suis quand même une femme battante, hein, puis qui toujours dégageait un peu les gens autour de moi qui étaient trop... « Ah, tu vas tomber, il y a une marche, il y a un machin, il y a un truc. » Là, d'un coup, j'avais tellement besoin de quelqu'un qui me touche sans, j'allais dire, en respectant les larmes qui coulaient. Et je crois que l'Église... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je crois que le Seigneur conduit aussi les choses comme ça. Et ce lieu de refuge, l'Église, c'est la famille. C'est le lieu de la parentalité, au sens biologique du terme, mais il y a une analogie qu'on peut pas ne pas avoir en tête. Et nos familles biologiques, dans ce qu'elles traversent de plus difficile, ont besoin de l'Église. Mais elles ont besoin d'une Église, justement, qui apprenne aussi à toucher avec le doigt de Dieu. Qui apprenne à accueillir les grandes colères et parfois les grandes tirades et déballages de vie. Des fois, on n'aime pas trop. On se dit, oulou, il faut qu'on le canalise. Dans sa prière, il a raconté les 4 dernières disputes conjugales. Hein. Donc, on a envie d'étouffer. Alors, il faut gérer. Mais il y a aussi, et je crois que c'est de plus en plus souvent, dans l'Église, une difficulté à exprimer sa douleur et sa souffrance. Parce que je crois que la société a changé, parce que chacun doit être fort, on est dans une culture du résultat, de la réussite, et le vent qui souffle sur la société a imprégné l'Église, l'a impacté. Et y a quelque chose de difficile à dire, j'aime le Seigneur, j'ai une relation intime avec lui, je le sers avec foi, amour et espérance. Mais je suis en souffrance et je ne peux pas mettre de mots. Donc moi, c'était ça à la maison. Donc en plus, du coup, je ne voulais pas aller au culte. Quoi. Je boudais comme nos grands jeunes. Et j'ai loupé un culte seulement. Et les autres, je n'ai pas eu le choix. Comme nos enfants n'ont pas eu le choix. Et mon mari me disait... tu viens. Je disais, mais non, je ne peux pas, regarde, je suis défigurée, je pleure, et puis ils vont encore vouloir prier pour moi, hein, Christian. Et il m'a dit, écoute, si tu viens, je parle à l'église avant, quand tu ne seras pas là, et je leur dis qu'ils ne prieront pas pour toi à haute voix et qu'ils ne te parleront pas des prières qu'il fait pour toi. Moi, je lui dis, comme ça, c'est bon. Mais je dis, mais je veux bien quand même qu'ils prient pour moi, hein. Mais je ne veux rien en savoir. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais l'impression que... alors je crois que le handicap visuel renvoie aussi un peu ça, comme un sentiment de honte. Comme on ne voit pas les autres, on a l'impression qu'on est un peu... Il y a quelque chose dans une présentation qui est pas nickel. Hein. Je vous dis tout. Hein. Donc comment j'allais venir à l'église maintenant que je ne voyais plus du tout, qu'en plus je pleurais tellement. Et là, Christian m'a dit une parole que je vous adresse aussi à tous. C'est le lieu où tu peux pleurer, c'est le lieu où tu peux faire tomber les masques. Si dans l'église tu ne peux pas vivre ça, alors à quoi sert l'église? Il m'a rappelé Anne, la maman de Samuel, stérile, ravagée par les larmes. Et où le sacrificateur vient, il n'a rien compris, quoi. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Il pense même qu'elle est ivre, vous vous rappelez de ça? Mais peu importe. Et c'est vrai que dans ces paroles, Christian m'a tellement bousculée que j'ai assisté à tous les cultes pendant 10 mois dans un état lamentable. Couple pastoral, engagé, servant, tout, famille d'accueil... Mais dans ces moments-là, je ne savais que pleurer. Je ne louais pas. J'arrivais à peine à entendre la prédication. J'étais dans ma bulle de résistance face à l'épreuve et au deuil que j'étais en train de faire. Et puis à la volonté aussi de ne surtout pas, et ça c'était important pour moi, envoyer le signal à mon mari, à mes enfants et à mes petits-enfants. Mais là, je m'en fichais un peu de ce que je renvoyais aux frères et sœurs dans l'église. Christian m'avait bien briefé. Ils sont là pour toi, pas toi, pour eux, pour l'instant. Mais pour mon mari, pour mes enfants et mes petits-enfants, oui, j'étais là. Donc, mon désir était qu'ils voient que ce n'était pas du bluff et que je n'avais pas perdu la foi. Donc ça, c'était un défi. Donc je me disais, je suis au culte. Je leur ai imposé de venir au culte. Tant qu'on a eu autorité sur eux, nos enfants, on a encouragé nos enfants à faire de même avec leurs petits-enfants. Mais, et si moi, parce que je perds un œil, l'église, c'est plus possible. Et tout ça, ça m'a tenue pendant 10 mois. Et puis au bout de 10 mois, nouvel attouchement, et puis tous ces frères et sœurs qui sont rentrés dans cette dynamique et qui ont su aussi se taire, qui ont su ravaler les paroles de connaissance qu'ils recevaient, s'ils en recevaient, ou même les mots d'encouragement qui auraient pu être mal appropriés, mais qui juste venaient... on est heureux de te retrouver, puis vite, on est heureux de te voir ce matin. Enfin, je ne sais pas, il y a une stratégie bizarre qui s'est mise en place, mais où ils avaient compris que j'avais juste besoin d'être là avec mon bagage de douleur et que s'ils voulaient que je me tienne au milieu d'eux, il fallait qu'ils se tiennent à distance dans tout ce qu'ils pourraient dire qui me blesserait, mais très présent dans la manifestation de l'amour. Alors, on a eu des petits repas préparés, arrivés à la maison, pas « Ah tiens, on t'a préparé parce que peut-être tu ne peux plus préparer », mais on en avait un peu trop. En tout cas, une délicatesse qui s'est mise en place qui fait que, oui, si on a pu toucher Hélène, si on peut vous toucher par notre témoignage, c'est parce qu'on a été au bénéfice de l'attouchement divin et de ces hommes et des femmes qui ont su nous toucher en nous acceptant dans tout ce que Dieu avait mis dans nos cœurs, dans le cadre de nos ministères, de nos engagements et de notre service. Et merci Seigneur, respecter vraiment dans cette dimension. Mais aussi, ils ont su nous accepter et nous montrer combien ils reconnaissaient aussi en nous des personnes faillibles. Il n'y a que le pape qui... Non, il n'est plus infaillible. Faillibles et en capacité d'avoir besoin aussi de leur prière et en capacité de chercher avec eux un chemin. Moi, le chemin, c'est ce qui me donne du courage. Un beau chemin dans la garrigue, la cheminée avec Jésus, comme les disciples avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, mais comme l'aveugle avec Jésus qui sort de la ville, qui parle avec lui, qui lui touche les yeux et qui s'y reprend. Et vous savez, moi, je fais tous les discours, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui l'écris. Et si vous lisiez ma Bible, avec tout ce que j'écris dans ma tête, de ce qui n'est pas dit, mais qui se passe en chemin, vous verriez combien les Écritures d'un coup prennent forme et nous enrichissent. Donc voilà un petit peu pour la partie que je n'avais pas préparée. Christian, tu as mon plan, mais je voulais quand même vous parler au niveau de d'abord dire que vous soyez papa, maman, grand-père, grand-mère, ou peut-être célibataire au milieu de nous, jeune ou vieux célibataire. Je crois que dans tous les cas, quand on rentre dans la famille de Dieu, on endosse aussi un statut, entre guillemets, de parent, parce qu'on doit mettre des fils et des filles au monde sur le plan spirituel. Et on doit en prendre soin comme des parents biologiques vont prendre soin de leurs enfants. Il y a vraiment quelque chose là, une analogie qu'on ne peut pas louper. Et donc, quand on fait un atelier parent, au fond, tous les chrétiens qui veulent engendrer des fils et des filles pour le Seigneur devraient y participer. C'est très enrichissant, je trouve, hein. En tout cas, nous les deux, dans notre ministère, ce n'est pas séparable. Et cet après-midi, Dieu m'avait mis à cœur de vous parler. Alors, on reviendra dessus d'un petit garçon qui a grandi dans l'église, c'est Timothée, avec une maman et une grand-mère. On ne parle pas trop du papa, mais on est dans une culture juive, hein. Il faut aussi qu'on remette dans le contexte. Mais en tout cas, la vie de Timothée a été complètement impactée par le témoignage de sa mère et de sa grand-mère. Et ensuite, Paul a pu le prendre sous son aile. Mais on reviendra juste en conclusion. Et je voulais vous parler d'un homme. Alors, je n'ai jamais parlé de lui dans ce qu'est accompagnement à la parentalité, mais Dieu me l'a vraiment mis sur le cœur. J'y ai fait allusion en parlant d'Anne. Élie, le sacrificateur, voilà, qui organise la vie du temple. Anne, au bénéfice du miracle de Dieu, face à sa stérilité, va avoir un geste extraordinaire, impensable. C'est qu'elle va confier son enfant au sacrificateur pour qu'il grandisse et qu'il soit élevé dans le temple. Alors, voilà, c'est un autre message, mais ça nous fait réfléchir vraiment sur ces bénédictions que Dieu nous donne et sur ce qu'on en fait. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille tous mettre notre fils et notre fille en internat, dans un monastère ou une école biblique. Voilà. D'où la différence entre une école privée hors contrat, hein, rien là-dessus, et une école du dimanche et une église hein, aussi. Et donc, on retrouve notre Élie. Père de famille et sacrificateur dans le temple. Et j'avais vraiment envie de vous en parler un peu parce que j'ai été un peu percutée par une réalité qui frappait mon regard intérieur avec les textes que j'entendais et qui me montrait un père de famille qui, quelque part, a su être un bon père de famille dans l'Église et qui a raté quelque chose avec ses propres fils. Christian a les références dans 1 Samuel, s'il y en a qui veulent les références, il pourra vous les donner. Mais c'est assez frappant. Et on va commencer par le piètre père, parce que faut toujours finir par le gâteau hein, dans les repas, la tarte aux pommes et à la cannelle, c'est pas en entrée. Puis parfois, il faut avaler la salade. Non. Notre père de famille, sacrificateur, homme de Dieu, a des fils. Et bien sûr, ils sont témoins du métier de leur père, de son engagement. Alors, on va le contextualiser. Quoi. Ils ont un papa qui sert dans l'église. Alors, je vise personne. Hein. Enfin, je nous vise puisqu'on est couple pastoral. Mais ça peut être un papa qui sert dans l'église, à la louange, à la sono, à l'école du dimanche, à l'entretien, échange les ampoules. En tout cas, ils savent qu'ils ont un papa sacrificateur, un homme de Dieu qui sert Dieu, qu'il aime de toutes ses forces. Et ses fils grandissent dans une famille chrétienne, on contextualise. Et ils grandissent et ils y vivent. Et ils participent à toute la vie du temple. Vous allez me dire, pourquoi tu t'extrapoles là ? Ben non, parce qu'en fait, les dérives, et on se rend compte qu'on a des exemples comme ça, alors c'est très... on zoome juste sur un fait, hein, c'est 3-4 lignes dans la Bible. Mais on se rend compte qu'en fait, ben en fait, ils piquaient dans la caisse, quoi, ou dans les offrandes, quoi, tout simplement. Ils étaient tellement là. Hein, et ils ont des vies comme ça, ben de gamins, hein. Je ne sais pas si vous, ça... Moi, quand j'étais toute petite, on allait avec les autres enfants de l'école du dimanche finir le vin de la Sainte-Seine. Alors après, les pasteurs, ils flanquaient le reste. Alors voilà, on était peut-être moins vigilants il y a 40 ans. Mais je ne dis pas que ces enfants étaient des petits bandits. Je ne dis pas qu'ils étaient mal élevés. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas instruits dans les commandements bibliques et que le sacrificateur ne leur transmettait pas tout ce qu'il fallait. Simplement, on se rend compte que Élie, avec ses fils, a peut-être confondu un peu cet amour paternel condescendant parce que c'était ses fils avec la mission que Dieu lui donnait. De pouvoir non seulement leur transmettre tout ce qu'il leur transmettait, et on y reviendra comme à Samuel, mais qu'il devait aussi poser une loi. des limites, qu'il devait être cohérent entre ce qu'il prêchait, ce qu'il disait quand il ouvrait les livres saints à la maison, et la façon dont il accompagnait ses enfants sur le plan éducatif. Et il devait y avoir cohérence. Et quand on lit les textes, si on prend un peu de distance, il a lâché prise avec une éducation bienveillante, pleine d'amour, mais qui rappelle les règles, qui montre le chemin, qui met les repères, qui reprend avec amour. Ben non, pique pas dans la caisse, quoi. C'était juste pour m'acheter des bonbons. Bon, ben écoute, t'as pris combien ? 3 euros ? Je vais remettre 3 euros, mon chéri. Mais ça vaut pour tout. Une forme de laxisme, de lâcher prise. Et pourquoi je crois que le Seigneur m'a interpellée par ce texte aujourd'hui, c'est que je crois qu'aussi les familles chrétiennes, mais nos églises aussi, sont tellement imprégnées de ce qu'il y a dans notre société, qu'il y a ou une forme de rigidité implacable, puis le gamin il vous pète dans les doigts, il ne comprend pas. Où il y a une forme de banalisation et on couvre, et on répare derrière, et on prie. Mais le gamin, il ne s'y trompe pas. Il y a comme une incohérence. Et Élie avait ces deux facettes. C'était le même homme, le même père. Et la deuxième facette, parce que c'est important de lire ça au prisme de ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'au moment où il élève ses enfants et quelque part il y a des choses bien ratées et qui auront des conséquences difficiles dans la vie de ses enfants, au même moment, on lui confie un petit bambin, Samuel, pour qu'il en soit au fond non seulement le père spirituel, mais bien plus, parce que c'est de l'internat, hein. Même, c'est quand même, il dort là. Et là, on se rend compte qu'il pose les choses, il pose les règles. Il est dans une dimension purement spirituelle. Et il les pose avec la justesse qui doit nous enseigner. Parce qu'avec Samuel, il... Dans le temple, hein, il fallait qu'il le forme pour que lui-même un jour soit sacrificateur, prophète. Donc il lui apprend toutes les règles de la liturgie. Mais il a aussi tous ces allers-retours qui donnent à Samuel une certaine autonomie contrôlée. Un cauchemar, Samuel. Il vient... Hein, mais c'est quoi? J'arrive pas à dormir. Et en lisant ce texte, je me dis, mais soit c'est va te recoucher, quoi. Hein, y a un moment, j'ai besoin de dormir moi aussi. Soit peut-être la voie qu'on peut aussi emprunter, c'est aller s'asseoir auprès de Samuel et puis de lui dire, écoute, je vais écouter ce que tu entends. Et puis je vais te le traduire, je vais t'expliquer ce qui se passe. Et ce texte, je pense, nous enseigne aussi en tant que parents. C'est que c'est enseigner dans la cohérence, par l'exemple, mais aussi avec une autonomie contrôlée qui permet à l'enfant de découvrir ce qui est cohérent et de se saisir lui-même de ce qu'on a envie de lui transmettre. Va te recoucher. Et Samuel lui dit pas, mais tu t'es fait des films, quoi. Ou t'as une bouffée d'angoisse. Il lui dit, voilà comment tu vas faire. Voilà comment tu vas te disposer à essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est le miracle qui se passe pour Samuel qui découvre Dieu, non plus au travers du sacrificateur, non plus au travers du père, du parent, mais au travers de Dieu lui-même, Élie a su connecter Samuel au divin. Il a su lui montrer le chemin avec bienveillance, dans un cadre posé, tu dois aller te recoucher, quoi. Non, tu vas pas mettre ta couche là, dans la chambre de mes garçons. C'est pas. Il y a des règles posées. On va les respecter. Tu retournes te coucher. Mais j'ai entendu qu'il se passait quelque chose de particulier. Et je vais t'aider à en faire quelque chose. Et c'est aussi toute notre démarche à nous. C'est nous positionner, peut-être en nous inspirant d'Élie, ou ni trop rigide, parce que ça casse, ça brise, ni trop laxiste, parce qu'on finit par se substituer au Seigneur et le chemin de la grâce passe par la conscience du péché, des conséquences du péché et il faut permettre à l'enfant de l'assumer. Et je pense qu'Élie aurait pu faire ce travail avec ses fils et rétablir les choses, reprendre avec eux, sanctionner quand c'était nécessaire. Et ne pas, parce qu'il vivait dans une atmosphère de chrétienne, penser que c'était suffisant pour que leur cœur change. Et ce même personnage nous enseigne des choses tellement magnifiques dans ce qu'il a pu dispenser à Samuel. Et j'ai envie de dire, on est tous un peu ces deux faces, qu'on soit des pères ou des mères. On est ce Élie avec ces deux possibilités, ces deux attitudes, en tout cas pour s'inspirer de ce texte. Et il est important qu'on se dise, mais on a besoin vraiment d'accompagner nos enfants dans nos familles, là je parle aux familles biologiques, mais aussi à l'équipe éducative au sens large du terme qui intervient pour les enfants. On a besoin d'être plein d'amour et de bienveillance. On a besoin de transmettre par l'exemple, mais on a aussi besoin de laisser l'enfant découvrir les conséquences de ce qu'il fait qui est contraire à ce qui va lui faire du bien et à ce qui va l'épanouir. Et puis être à côté, si Élie avait laissé Samuel, parce que mauvais père pour ses fils, mais il aurait pu rater avec Samuel, en banalisant ses insomnies, ce qui se passait de difficile. C'est vraiment rejoindre l'enfant, l'écouter, poser les règles, et puis ensuite l'accompagner pour qu'il découvre comment il va éventuellement régler ses petites embrouilles avec ses copains quand ils sont petits, ses difficultés d'ado, ses amourettes un peu étranges. C'est l'aider, l'accompagner. Il sait qu'on est sur le chemin avec lui. Il sait qu'on n'est pas d'accord. Alors ça, il le sait en principe, parce qu'il sait ce qu'on prêche. Mais on a besoin de lui redire le pourquoi du comment. Et puis après, lui trouver les moyens, lui, d'aller auprès de Dieu. Moi, je me rappelle d'une ado qu'on avait accueillie et qui était extrêmement difficile quand on était famille d'accueil. Et face à une situation extrêmement compliquée, possibilité d'avortement ou pas, poussée par les éducateurs. Et à un moment, j'étais là et moi, je savais ce que je croyais. Je savais ce qu'était le plan de Dieu, l'importance de la vie. Et d'ailleurs, elle était là. Et puis d'un coup, c'est comme si le Saint-Esprit m'avait vraiment saisie. Et je lui avais dit, mais tu sais, Coralie, je n'ai pas de réponse. Je sais en quoi je crois. C'est tellement important, la vie. Donc j'ai repris les choses et j'ai repris le cadre. J'ai dit, mais je te fais confiance pour que tu trouves le chemin. Et celui en qui je crois et qui remplit ma vie saura t'indiquer le chemin. Alors, elle n'a pas fait le bon choix. Elle est partie avec l'éducatrice à la PMI. Pour moi, elle ne faisait pas le bon choix. Et elle a fait une IVG, elle avait 15 ans et demi. Et pour moi, elle ne faisait pas le bon choix. Et pourtant, Dieu m'avait bousculée en la libérant. Et je me disais, mais je n'ai peut-être pas assez insisté, Seigneur. Je ne veux pas être comme Élie avec ses fils. Qu'est-ce que j'ai fait que... Et puis, j'ai juste dit à l'éducatrice que moi, je ne l'accompagnerai pas. Je vous dis ça parce que c'est plein d'émotions, c'est des moments tellement difficiles dans une vie. Ce n'est pas ma fille, mais ça aurait pu l'être. Et j'ai dit à l'éducatrice, moi, je ne peux pas l'accompagner. Alors, en plus, c'était facile du coup, parce qu'il y avait une éducatrice. Si j'aurais été la maman, ça aurait peut-être été plus compliqué. Et elle me dit, Madame Caron, je respecte, je sais combien c'est difficile pour vous, mais est-ce que tout de suite, après l'intervention, elle peut revenir? Je lui dis, mais oui, bien sûr. Donc, j'ai fait un gros bisou à Coralie quand elle est partie avec l'éducatrice. Et je lui ai dit, tu sais que je t'aime, tu sais que je prie pour toi. Et pourtant, hein, elle savait. Et puis, elle est partie, puis elle est revenue le soir. Et en arrivant à la maison... Elle était raide, elle était figée et je crois qu'elle aurait pu me bousculer pour aller dans sa chambre. Et là, j'ai posé ma main sur l'épaule, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit, bon, on continue la route. Dieu t'aime, je t'aime. Et Coralie, elle est mariée, elle a deux enfants, on est en lien avec elle. Et elle me disait il y a quelque temps, il y a deux ou trois ans, où elle avait des grosses difficultés avec ses ados. Et elle me dit, la plus belle preuve d'amour que j'ai eu dans ma vie et que j'ai reçu de vous en tant que famille d'accueil et qui fait qu'aujourd'hui, je ne pratique pas, alors elle m'appelle Tata, mais je prie, je t'assure, c'est la façon dont tu m'as accueillie après que j'ai fait mon IVG. Et elle dit, ça m'a aidée à faire un chemin et à guérir aussi de ce que, des blessures engendrées par cette décision mais je ne pouvais pas faire autrement. Et je suis parvenue sur « je ne pouvais pas faire autrement » parce que je crois que sur son chemin, dans son histoire, là où elle en était, c'était son parcours de vie. Mais dans ce parcours de vie, Dieu l'a rejoint par notre amour et peut-être aussi un peu nos lâcher-prise avec nos certitudes. Et pourquoi cet exemple en lien avec les fils d'Élie, les vrais ? Et Samuel, son fils de cœur, son fils adoptif, celui que Dieu lui a confié, c'est que je crois qu'on a besoin d'avancer et de se frayer un chemin avec tous ces sentiments ambivalents qui nous envahissent, cette tentation parfois de couvrir et de banaliser ou de faire à la place. Si des fois vous avez réparé des erreurs de vos enfants parce que vous ne vouliez pas de conflit, vous avez tout caché. Ça engendre des disputes dans les couples, parfois. Et puis parfois, cette rigidité, parce que c'est intolérable, c'est insupportable, parce que Dieu a dit, parce que ce n'est pas bon. Et puis, ce chemin ouvert, avec cet aller-retour du petit Samuel dans les bras d'Élie. Et il fait le chemin entre la frayeur de ce qu'il entend, de ce qu'il ne comprend pas, de tout ce qui se passe dans sa tête, ce chemin que lui ouvre Élie. Avec les conseils et les allers-retours et en quoi ça a changé la vie du petit Samuel. Donc voilà, je voulais juste terminer avec ça. On vous a préparé des petites questions après pour travailler en groupe, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Mais je pense qu'au-delà du petit questionnaire qu'on reprendra, il est peut-être inutile. Ce qui est important, c'est qu'on puisse vivre un vrai temps de cœur à cœur, peut-être avec nos parcours, en respectant la souffrance de chacun, avec beaucoup de pudeur, mais en accueillant aussi, parfois, juste c'est difficile, en accueillant juste des larmes. Et on n'a pas forcément besoin de dire, mais je crois aussi que les larmes et les c'est difficile, ça trace un sillon et ça libère ensuite le temps pour la parole. Le temps pour la parole. Avec notre Coralie, il a fallu après des temps pour la parole. Des temps où on s'assurait que les mots qui étaient mis étaient justes, bons. Et on a vécu la même chose dans notre couple et avec nos enfants. On ne peut pas tout se dire tout de suite, y compris dans un couple. Je vous ai parlé de nos 10 mois si difficiles, où j'ai été si lourde et pénible pour mon mari. Mais il a fallu tout ce temps pour que je puisse exprimer ce que je ressentais et pour que lui, il puisse enfin faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire me réveiller d'une torpeur dans laquelle je m'installais sans pouvoir mettre de mots. Mais il fallait 10 mois, il fallait des larmes, des prières, des touchés divins et des touchés de frères et sœurs qui apprenaient à juste mettre la main. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Et je crois vraiment dans mon cœur qu'au milieu de nous, il y a toutes ces magnifiques familles, toutes ces magnifiques personnes qui traversent aussi des temps difficiles dans leur vie conjugale, sentimentale, dans leur solitude aussi comme Agar, dans leur peur pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants. Et je crois vraiment que le Seigneur aussi jette sur vos épaules ce doux manteau d'amour qui réchauffe et qui nous permet de nous poser. Et comme le jeune Samuel, d'apprendre à écouter Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Et qu'on puisse aussi peut-être se décaler un peu et être en capacité de dire à ceux qui sont en face de nous et qui ne comprennent pas trop ce qu'ils vivent, parle, je peux t'écouter, je peux juste t'écouter. Être aussi en positionnement d'écoutant pour ensuite prier. Combien Élie a dû prier quand il a renvoyé le jeune Samuel dans sa chambre. Soyez bénis.